Lecture en tête à tête avec Sorge Chalandon, corps à corps entre un enfant de salaud et un enfant de puteau. Lui écrit, moi je le lis, fusion de l'âme et de l'esprit, Sorge forge des mots depuis sa gorge terreuse. Petit Bonzi, devenu grand reporter, écrit une littérature à l'os, mais chienne de vie ne lui rongera pas sa joie féroce. Le constat est là. La vie ne fait pas de cadeaux, ce qui n'empêche pas Sorge de l'emballer, à coups de papier, à coups de baiser. En tête à tête, sans bouche à bouche, j'en rajoute une couche sur la vie. Tant pis si le ciel nous est tombé sur la tête, nous avons des étoiles plein les yeux. Le jour d'avant, je l'admirais, le jour d'après, j'en redemanderais, mais, tel un sculpteur démuni face à un énorme bloc de marbre, ici d'amour, je ne sais comment embrasser les formes généreuses de Sorge. Alors, je ferai comme un auteur, je ferai ce que je peux, je ferai de mon mieux. D'abord, en vous demandant, à l'occasion des 30 ans de l'association Lecture en Tête, basée à Laval, quel rapport entretenez-vous à la Mayenne, théâtre de votre roman « Une promesse ».
Ben d'abord, bonjour et merci. C'était très joli. C'était très joliment écrit, c'était sympathique. Et c'était... C'était, en fait, je ne sais pas si on dit maintenant du slam ou de la poésie, mais en tout cas, voilà, ça me touche.
Merci.
Parce que généralement, lorsqu'on m'interviewe, on me dit « Alors, de quoi il parle ton bouquin ?» Et c'est un peu déstabilisant. Donc c'est la première fois que que je me sens... en tête à tête et à armes égales avec quelqu'un, et ça c'est très, très agréable. La Mayenne, moi j'ai toute ma belle famille qui vient du nord de la Mayenne, un petit village qui s'appelle Beljar, qui est du côté de Jublin, et j'ai un rapport particulier avec la Mayenne parce que d'abord j'y ai écrit, le livre s'appelle Une promesse, effectivement, j'ai inventé un village, j'ai inventé 7 copains. C'est une promesse qui est importante, c'est que ça a été mon seul roman réel de fiction pure. Je n'y suis pas, ça vient pas de ma vie, ça vient pas d'une blessure intime, ça vient pas d'un accident. C'est voilà, j'étais en Mayenne et je parcourais la Mayenne et je me suis dit c'est là mon deuxième roman après Le Petit Bonzi qui était l'histoire d'un enfant bègue qui était mon histoire, mais je voulais faire un roman un vrai avec des personnages, avec un lieu inventé, avec toutes ces choses là et une fiction pure. J'étais en Mayenne et j'étais frappé par d'abord par les gens qui me semblaient être comme ça des ombres. C'était au petit matin dans le brouillard. J'ai traversé un village. Il y avait un calvaire. Il y avait un café qui était à peine ouvert. Et j'ai eu l'idée dans ce lieu-là, c'est-à-dire que ça pouvait pas être ailleurs en fait pour moi. Dans ce lieu-là, l'idée de 7 amis qui sont tout petits, qui sont tout jeunes, qui sont enfants, qui se connaissent depuis toujours en fait. Et qui se font une promesse, c'est que lorsque la mort viendra prendre l'un d'eux, ils l'en empêcheront. Et le roman commence, donc c'est ça la promesse. Et le roman commence lorsqu'ils sont âgés, et la mort vient. Et la mort vient, ils vont l'empêcher de prendre leur ami, le temps qu'ils acceptent le deuil, mais en tout cas, voilà. Et je voulais que ça soit rural, je voulais que ça soit là. Parce que dans la Mayenne dans laquelle je vis, donc dans le nord, dans la forêt, il y a encore des pierres druidiques. Il y a encore des lieux qui me semblent hantés par les sorciers, par les rebouteux, etc. Donc, j'aurais pas pu faire ça dans le sud, par exemple. Je le sentais pas du tout. Tandis qu'en Mayenne, je trouvais que tout était là pour ça. Et donc, j'ai écrit ce livre en Mayenne, imprimé chez Floc, donc encore en Mayenne. Et ce livre-là, très particulier, parce que l'âme est le héros de ce livre, donc c'est pas très parisien. Personne se tire dessus. On ne parle pas de déviation, on ne parle pas de racisme, on ne parle de rien, on parle de gens qui se font une promesse avec l'âme. Et ce livre, en fait, il était mort. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir 2000 lecteurs en tout, enfin, c'était rien du tout, et j'étais triste, et j'ai eu le prix Médicis. Et là, en fait, ce prix Médicis a fait que j'ai continué à écrire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce prix Médicis, c'était fini. Enfin, Grasset me disait que j'avais fait un joli petit roman, Le Petit Bonzi, et puis celui-là qui était complètement obscur, bizarre, qui se passe en Mayenne, où des gens se font promesse de la mort, je ne sais pas quoi. Il y a un peu d'Ancou aussi, parce qu'il y a un peu de la Bretagne. Il y a l'une de ces personnes qui vient de l'île de Groix. Donc il y a tout ça comme ça. C'est un conte celtique, un petit peu, et mayennais. Et donc Grasset m'aurait remercié. Mais là, boum, prix Médicis. Et là, Grasset, tout d'un coup, s'est dit « Ah ouais, d'accord, quand même, il en a encore un peu sous la pédale. » Et grâce à ce prix, et je ne comprenais pas, moi, je suis allé recevoir ce prix au Crillon, donc grand hôtel parisien et restaurant. Et j'ai vu ces gens-là, ces Parisiens-là, des auteurs. Et je leur ai dit, mais pourquoi ce livre-là? Et une femme m'a dit, une membre du jury qui m'a dit, parce qu'il nous a plu. Et je trouvais que c'était la seule explication plausible et valable. Donc voilà. Donc j'ai, avec la Mayenne, un lien charnel, un lien culturel, un lien affectif et un lien familial.
Là, on parle du deuxième roman. Aujourd'hui, il y en a 10. Oui. Justement, en prenant cette grille de lecture par le prisme du territoire géographique, moi, je voulais savoir, dans votre processus créatif, d'où surgit le roman ? D'un espace, d'une image, d'un événement ?
D'un événement. C'est-à-dire, d'abord, je veux rajouter que dans tous mes romans, il y a toujours un moment où il y a un personnage qui vient de Mayenne. C'est bizarre. Dans tous, même quand c'est un roman sur le Liban, sur l'Irlande. Bah, pourquoi ? Je dis, pop, un moment, il y a la Mayenne. En fait, sauf Une promesse, donc sauf ce livre qui a lieu en Mayenne, tous mes romans sont nés de mon histoire directement ou de blessures intimes. C'est-à-dire, c'est parce que j'étais bègue que j'ai écrit Le Petit Bonzi. C'est parce que j'avais un ami cher qui était mon frère d'Irlande, qui a trahi son mouvement, qui a trahi son armée, l'armée républicaine irlandaise, qui a trahi son pays, qui a trahi sa famille, qui a trahi ses amis, dont moi, que j'ai écrit Mon traître et Retour à Killybegs. C'est parce que j'étais grand reporter de guerre et j'ai assisté à la fin des massacres de Sabra et Shatila au Liban en 1982 que j'ai écrit Le Quatrième Mur. C'est parce que mon père était un bourreau que j'ai écrit Profession du Père, que j'ai écrit ce dernier livre. C'est parce que j'ai eu un cancer et ma femme aussi en même temps, à 11 jours d'intervalle, que j'ai écrit Une Joie Féroce. C'est parce que j'ai un amour profond pour deux métiers particuliers qui sont la mine, les mineurs, qui n'existent plus en France en tout cas, et les marins-pêcheurs que j'ai écrit le jour d'avant sur la catastrophe minière de Liévin. Donc à chaque fois, soit c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai envie de revisiter par le biais de la fiction, soit c'est quelque chose que j'ai envie de visiter par le biais de la fiction. Je revisite ou je visite, mais en tout cas, je repars sur les traces de quelque chose qui me touche, qui m'a touché profondément, et en prenant des masques transparents. Dans le livre sur la Mayenne, je ne dis pas « je », c'est pas la première personne, donc je suis un peu partout, dans tous les personnages. Mais dans les autres, dans l'un, je suis luthier, parce que je suis un petit luthier français, parce qu'en Irlande, un luthier dans un pub, c'est le roi du monde, parce qu'il fait un peu de violon, donc il est accueilli comme Saint-Patrick. Je suis metteur en scène de théâtre dans Le Quatrième Mur, parce que je voulais retourner dans les massacres de Sabra et Shatila, je voulais retourner à la guerre, je voulais retourner au Liban, et ne pas être journaliste, surtout pas ne pas être journaliste. Donc j'y suis retourné comme ça en étant metteur en scène de théâtre. Dans le jour d'avant, je suis frère de mineur. Sur le cancer, je suis une femme et je suis libraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je veux que ça soit un roman. C'est-à-dire que je veux avoir un point de vue différent du point de vue du journaliste qui a vécu des choses, du point de vue de l'homme qui les vit. Mais ce sont des masques de carnaval, c'est transparent, on sait tout ça. Je ne me cache pas derrière un masque. Je mets un masque juste pour me protéger un petit peu. Donc, chaque fois, chaque roman a été... C'est ma vie, c'est ce que je vivais, j'ai souffert, ce que j'ai vécu qui a inspiré tous les romans. Donc, j'en suis en fait le seul romancier que je connaisse à qui je ne m'en souhaite pas d'autre. Parce que soit je rentre en fiction pure, parce que c'est peut-être ce qui va se passer maintenant, soit ça veut dire que j'aurais eu un autre accident. Donc je ne me souhaite pas un autre cancer, je ne me souhaite pas la mort de ma mère tout de suite en tout cas. C'est-à-dire que plein de gens vous disent, et moi ça me fascine, des gens qui me disent, moi j'ai 15 romans dans mes tiroirs et tout, ouais bravo les mecs, allez-y, super. Moi pas du tout. Moi c'est, le matin je ne sais pas que j'ai un cancer, je ne sais pas que je vais écrire ce livre-là. Je ne sais pas que je vais assister à Sabra et Shatila, à des massacres, donc je ne sais pas que je vais écrire ce livre-là. Je ne sais pas que mon ami est un traître en Irlande, je ne sais pas ce que je vais écrire ce livre-là. Donc je ne sais pas. Et aujourd'hui, quand je vous parle, je ne sais pas quel sera le prochain, simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas de souffrance particulière, je n'ai pas d'accident particulier, je n'ai pas d'idée non plus.
Et justement, ces événements vous impactent directement et que vous apporte le processus d'écriture ? C'est une libération ? C'est une nécessité ?
Alors non, c'est-à-dire que moi, il y a une phrase que je hais, mais que je déteste complètement, c'est « il faut tourner la page ». Moi, je ne tourne aucune page. Ça, c'est une phrase que je... Moi, non seulement, d'abord, il faut que d'abord la page, elle est blanche, je l'écris, ensuite je la relis et je ne la tourne pas. Moi, je suis la somme de toutes les pages non tournées de ma vie. Je ne veux pas guérir par l'écriture. Beaucoup de gens me disent « Mais quand vous avez écrit, est-ce que ça va mieux après ?» Mais il n'est pas question que j'aille mieux. Il est question, quand j'ai écrit mon livre sur le cancer, j'ai eu des dizaines et des centaines de conversations avec des femmes qui avaient un cancer du sein, comme Jeanne, comme moi, dans le roman. Et ce n'était pas un roman pour me plaindre de cancer que je n'avais pas. C'est un roman pour entrer en communication, en discussion, en fraternité ou en sororité avec les femmes qu'il l'avait. Et donc, pendant tous les mois où j'ai discuté de ce livre-là avec les femmes, c'est elles qui me parlaient de leur cancer. Quand je parle et quand j'écris sur mon père bourreau, les gens viennent me voir et me parlent de leur père bourreau ou de leur mère bourreau ou de leur frère bourreau. Mais en tout cas, chaque fois que j'écris un livre, c'est surtout pas pour exposer ce que je suis, mais c'est pour trouver un moyen de parler à l'autre de ce qu'il est. Et finalement, je retrouve plein de gens avec qui je partage ces choses-là. Donc je ne veux pas guérir, je ne veux pas cicatriser, je ne veux pas aller mieux après un livre, je veux l'écrire pour le mettre à distance, parce que pour moi, les mots mettent à distance ce qu'on a vécu, et surtout pour partager. C'est formidable, quand j'ai écrit mes livres sur l'Irlande, de voir tous ces gens qui brusquement prenaient conscience qu'en fait, ils n'avaient pas compris la guerre d'Irlande depuis le début, parce que ça ne les intéressait pas, ou guerre de religion, ce mot totalement imbécile inventé par la presse. Mais en tout cas, c'est grâce à ces livres-là, à mes livres, que tout d'un coup, des gens sont venus, et soit s'y sont intéressés, soit ont recommencé à s'y intéresser, soit me racontaient comment ils y avaient vécu, comment ils avaient aimé, comment ils s'étaient engagés, etc. Donc, chacun de mes livres est un moyen d'ouvrir une porte sur une autre population que je ne sais pas, que je ne devine pas. Et même quand j'ai écrit mon livre sur les bègues, le nombre de gens bègues qui sont venus me voir, c'est absolument bouleversant. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on dise « Ah, le pauvre, il a eu un cancer ». Moi, ce que je veux, c'est cette image qui est somptueuse. C'était dans un salon du livre, c'était à Brive, où une magnifique femme, une sorte de mannequin, vient me voir, une grande femme, absolument superbe, rousse avec des cheveux jusqu'à la taille, qui vient me remercier pour mon livre sur le cancer et qui me dit qu'il avait ri, qu'il avait adoré. Et dans un geste absolument mais souverain, elle enlève sa perruque rousse, elle la garde à la main, elle était absolument chauve, elle la garde à la main, donc elle était en chimiothérapie, et elle traverse le salon du livre avec sa perruque à la main, chauve comme ça, avec la tête haute, et là tu te souviens pourquoi tu écris des rires.
Plutôt que de tourner la page, moi je vous invite de coller l'affiche, en l'occurrence l'affiche rouge, votre premier choix musical, Sorge, musique de Léo Ferré, chantée justement par Marc Augeret.
Marc Augeret.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Elle est morte le matin, en était différent. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma méninée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Pourquoi ce choix musical, Serge ?
Pour plein de raisons, en fait. Pour plein de raisons. Moi, j'ai une grande admiration pour les gens des FTP Moy, des francs-tireurs partisans, des gens de la Fiche Rouge, de tous ces gens qui n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire républicains espagnols, juifs polonais, italiens antifascistes, qui ont fui le fascisme, qui ont fui le nazisme, qui ont fui l'antisémitisme, qui sont retrouvés en France, qui sont souvent engagés dans l'armée française jusqu'à la défaite de 40, qui ont cru qu'ils avaient un abri, un asile, qui sont retrouvés chez nous, le dos au mur, avec les armées hitlériennes qui arrivaient, et qui ont pris les armes tout de suite. Tout de suite, ils n'ont pas attendu 1944, ils n'ont pas attendu l'arrivée des alliés le 6 juin, ils n'ont pas attendu, c'est pas les résistants de la dernière heure. C'est des gens qui, c'était même pas pour... D'abord parce qu'ils étaient profondément antifascistes, profondément antinazis, mais il n'y avait pas que ça, c'était une question de survie. Donc les premiers qui ont pris les armes dans Paris occupé, c'était des petits... des petits fourreurs juifs, c'était des petits maçons italiens, c'était... Et ce qui m'a bouleversé, c'est qu'ils ont fait un mal fou aux armées allemandes, aux armées d'occupation. Ils ont fait un mal fou à la collaboration parce qu'ils avaient peur de rien, parce qu'ils savaient, ils allaient mourir. Donc, mourir les armes à la main, c'est toujours mieux que mourir dans une colonne qui part vers les fours. Et donc, ils se sont battus non seulement avec la rage de la liberté, mais avec l'énergie du désespoir. Et ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que, elles sont où nos rues Manouchian, elles sont où nos rues FTP, elles sont où nos rues qui rendent hommage à ces combattants. Enfin, c'est insensé de penser que ces hommes et ces femmes sont morts. Ils sont même pas morts pour la France, c'est-à-dire qu'ils sont morts pour nous tous, c'est-à-dire qu'ils sont morts pour une idée de pour respirer, pour survivre, pour vivre. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma fille Mélinée, non pas parce que je voulais qu'elle porte le nom d'un tombeau, mais pour faire vivre Mélinée. Il n'y a rien de plus formidable pour un père d'avoir une ado et de dire « Mélinée, tu ranges ta chambre maintenant, ça suffit ». C'est génial parce que tout d'un coup, Mélinée, elle revit, elle est vivante. Ce n'est pas simplement un drapeau en berne. Mélinée, maintenant, c'est ma fille et c'est d'autres filles qui existent et qui font chier les parents et qui rangent leur chambre. C'est la vie. Et moi, j'avais envie de les ramener à la vie comme ça. J'ai été longtemps aussi avec une femme dont le père, ça s'appelait... Alter Moïché, qu'on appelait Albert parce que c'était plus simple, qui était chef des FTP Moy de la région lyonnaise, qui a libéré Villeurbanne avec ses hommes. C'est-à-dire que Villeurbanne a été libéré par une bande de petits juifs, de petits espagnols, de petits italiens. Et ces gens-là, à la libération, ils ont été oubliés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de libération française, la France par la France et la résistance française, etc. Et tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes femmes qui ont été torturées, qui ont été guillotinées, qui ont été, qui ont été tuées, décapitées à la hache pour les femmes, tous ces gens-là, tout d'un coup, sont tombés dans l'oubli. On oublie que Paris a été libéré. Les premiers blindés qui sont entrés dans Paris libéré, c'était les républicains espagnols. C'est-à-dire que toute cette histoire-là, qui est notre histoire, elle est magnifique, cette histoire-là. On l'a un peu cachée, on l'a un peu oubliée, on l'a même totalement oubliée. À Lyon, il y a un monument aux fusillés qui s'appelle le Veilleur de Pierre. Et il y a un certain nombre d'hommes qui ont été fusillés là et qui ont été laissés ici, au soleil, pour que les Lyonnais les voient. Tous en nom de rue. Et il y en a qu'un qui n'a pas de nom de rue, c'est le FTP Moy, parce que comme dit Ferré, comme disait parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles. Donc un Dupont qui tombe pour la France, c'est formidable. Un Manouchian, Missak, c'est quoi ça, qui tombe pour la France, ça fait bizarre. Et je trouve ça dégueulasse. Et donc moi, ces gens-là, ils sont dans mon cœur, dans mon ventre, ils sont dans mon esprit, ils sont dans mes poings fermés. C'est ma colère et je les honore dès que je peux.
Vous parlez justement de ces oubliés qui ont lutté avec rage. Vous aussi, vous pouvez lutter parfois avec rage dans vos romans. Est-ce que ce serait possible justement de lire un extrait d'une
Bien
plaidoirie
sûr.
Somptueuse qui est aussi un acte de lutte, mais cette fois-ci avec les mots?
Alors j'ai lutté, je lutte avec rage dans mes romans, mais bon, c'est pas... Et j'ai lutté aussi au point... C'est-à-dire que moi, ça peut peut-être choquer, mais quand j'étais jeune, quand j'étais militant, je considérais que je n'étais pas gêné par la violence. C'est pas quelque chose qui me gênait. C'est-à-dire que face à des antisémites, tu vas pas réexpliquer que c'est mal. Face à un raciste, tu vas pas réexpliquer qu'il faut pas être raciste. Il y a un moment donné, ou alors évidemment j'ai tort parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut pas faire comme ça. Est-ce que je suis en train de dire? Je sais que certains vont trouver ça absolument insupportable. Et à un moment, il faut qu'ils ferment leur gueule, quoi. Moi, j'ai eu très souvent quand j'étais jeune et maintenant encore. Moi, j'ai envie que la peur elle change de camp. J'ai envie que des gens qui rentrent dans une rame de métro et qui voient des Noirs ou un Arabe ou quelqu'un avec une kippa qui rentre dans un métro à Paris en disant « Ah, ça pue le juif ici !» Moi, j'ai pas envie que quelqu'un dise « Oh, mais c'est horrible ce que vous avez dit !» Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils sortent du métro, qu'ils marchent plus, qu'ils aient plus de genoux. Voilà. Et ça, j'ai pas changé. Donc, je suis désolé pour cette petite sortie un peu improbable, mais vraiment que la peur change de camp. C'est-à-dire, j'en ai marre que ce soit nous qui prenions les coups tout le temps. Des fois, les coups, il faut les rendre. En Irlande, les républicains irlandais avaient dit « Dieu nous a fait catholiques, le fusil nous a fait égaux ». Et je trouve que c'est une très jolie phrase. Elle peut énerver certains, mais je trouve que c'est une très jolie phrase. Maître Klarsfeld est à la cour d'assises de Lyon en 1987. Il va plaider pour les enfants d'Izieux, c'est-à-dire les 44 enfants juifs qui étaient dans une colonie de vacances cachée, une fausse colonie cachée. Ils pensaient qu'ils étaient hors d'atteinte des nazis. Ils ont été dénoncés et les 44 enfants ont été déportés et sont morts en camp de concentration, tous. Et donc Serge Klarsfeld s'avance à la barre. Et là, donc, je lis un extrait de mon livre. Serge Klarsfeld n'a pas plaidé. Il n'avait pas jeté ses manches vers les moulures du plafond. Il n'avait usé aucun effet de voix. Il avait parlé avec tristesse. C'était plus un avocat. Lui, le gamin qui avait échappé à une rafle, masqué par le mince rempart d'une armoire à double fond, lui, l'historien, le militant, le chasseur de nazis, hanté par les enfants juifs d'Izieux, n'avait fait que prononcer leurs noms. 44 noms sanctifiés. L'un après l'autre, récité dans un silence de mort vraiment de mort, le calme noir du tombeau. Et aussi, plus douloureux encore, il avait lu quelques-unes des lettres qu'ils avaient écrites à leurs parents, ses enfants, avant le 6 juillet 1944. Levé, droit, face au box vide de Barbie l'assassin, il avait fait entrer ses enfants dans la grande salle, en file indienne, les uns avec les autres, les petits donnant la main aux plus grands. Il les avait fait comparaître devant nous, devant toi, mon père, dans leurs shorts d'été, leurs chaussettes tombées sur leurs chaussures trop grandes, leurs jeux capturés par les rares photos. Il les avait assemblés, la procession déchirante aux marches du palais, l'avait invité aux portes de la cour d'assises, l'avait conduite au milieu de nous, lui avait demandé de prendre place sur le banc des victimes. Serge Klarsfeld a obligé chacun à baisser les yeux. Il a tassé Jacques Vergès, l'avocat, derrière son pupitre. Il a transformé ton visage orgueilleux, mon père, en figure inquiète et pitoyable. Sammy Adelsheimer n'avait que 5 ans. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Sammy n'est pas revenu. Tu as vu que les mains de Serge Klarsfeld tremblaient lorsqu'il lisait ? Mon père avait hoché la tête. Oui, il avait remarqué. Max Lehner avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Egon Gamiel avait 8 ans. Egon n'est pas revenu. Renate et Liane Kruschmal avaient 8 et 6 ans. Elles ne sont pas revenues. Marcel Boulka s'occupait de Coco, son frère de 4 ans. Marcel et Albert ne sont pas revenus. Lucienne Fiedler avait 5 ans. Lucienne n'est pas revenue. Dans la salle d'audience, il y avait des collégiens, des enfants, presque. Au début de l'après-midi, ils frétillaient sur leur siège, excités par le décorum, et puis, à force de noms, ils ont fait silence. Bouche ouverte, regard voilé. Sur leur visage, autre chose que la colère, mais la surprise, brute, pure, la désolation. « Quand il y a beaucoup de neige, on va faire de la luge sur les pentes », écrivait Fritz Lobmann. Fritz, 10 ans, n'est pas revenu. Pour Noël, on a mangé des pains d'épices, du chocolat, de la pâte de coin. On a bu un Novomaltine. J'ai reçu une boîte de peinture. La maison est très belle. On va chercher des murs noirs, blanches et rouges. Je t'envoie 1 milliard de baisers. Gorgi Alpern, 9 ans, n'est pas revenu. Ici, il y a de belles montagnes et du haut, on voit le Rhône. Je suis très contente d'être là. Nina Aurovitch, 12 ans, n'est pas revenue. Je vais bien apprendre pour te faire plaisir. Comme ça, pour qu'après la guerre, tu nous vois tous les deux intelligents et que tu ne nous vois pas comme 2 ânes. Joseph Goldberg et Chaim, son frère de 13 ans, ne sont pas revenus. Mon père regardait le plafond, il se défendait de l'émotion. Lui qui espérait un combat de titans entre 2 grands avocats n'attendait plus rien de Jacques Vergès. L'avocat de la défense était tendu. Le dos contre le mur, il épiait le public, tentait de déchiffrer les visages. Chaque larme roulant sur une joue était pour lui une défaite. L'heure n'était plus au sourire. Il semblait aussi ne plus respirer, il encaissait les coups, comme moi, comme nous tous. Il frémissait de cette voix sans timbre, cette litanie sans fièvre, ce kadish murmuré. Dieu, que vous êtes bon, que vous êtes gentil, c'est vous qui commandez, Dieu. Je pensais toujours à vous, même dans les derniers moments de ma vie. Faites revenir mes parents, mes pauvres parents. Protégez-les. J'ai tellement confiance en vous, Dieu, que je vous y merci d'avance. Liliane Gerstein, 10 ans, n'est pas revenue. Suzanne Schoolpaper, 11 ans, n'est pas revenue. Maurice Piegel n'est pas revenue. Et Alice, Claudine, Paula, Martha, Santa, et Hans, Mayer, Otto, Théo, Sigmund, Arnold, Emina, et Hermann, et Elie, et Jacob, et Esther, et Baruch, et Jean-Claude, et Isidore, et Joël, et Gilles, et Henri, et Marc, et Marc, et Marc Marcel, et Émile, l'enfant fragile à qui il fallait raconter une histoire toutes les nuits, et Jean-Claude, et Richard, et Jacques, leur frère au pull grenat, tous et toutes étaient là. Sans leur peur, sans leur cri, sans leur lame, comme remontés à leur pupitre dans la maison d'Isieux, levant le doigt à l'appel de leur nom avant que l'institutrice ne commence la classe. J'avais la tête dans les mains, les yeux fermés, il me fallait l'obscurité pour accueillir leur nom. J'ai revu l'ardoise oubliée et le petit mot « pomme » tracé à la craie. J'ai vu les doigts poudrés de blanc, j'ai entendu le crissement du calcaire sur la pierre tendre. Je ne voulais plus de cette lumière de juin qui baignait le prétoire. Plus de juges, plus de jurés, plus d'avocats, des journalistes massés tout autour. Je ne voulais plus non plus du public et de son chagrin. Je pénétrais dans une caverne, creusée à même la roche glacée. La voix égrenée des noms, des milliers de bougies tremblantes se reflétaient à l'infini. Je désirais que chaque enfant nous soit confié, que chacun de nous devienne leur tombeau.
Merci pour ces lignes et merci pour cette lecture. Plusieurs fois dans l'extrait, vous citez la peur. Ça fait aussi écho à ce que vous disiez justement juste avant de lire cet extrait, que la peur justement devait changer de côté. Quel rapport justement vous entretenez avec vos émotions ?
Je suis malheureusement je suis handicapé, c'est-à-dire que j'ai du mal à les cacher. Alors ça crée 2 problèmes. Donc, comme j'ai parlé du petit bonzi au tout début, j'étais un enfant bègue et l'émotion me rend bègue. C'est-à-dire que quand je suis trop ému, quand je suis en colère ou quand je suis triste, ou je bégaye. C'est comme si les mots n'avaient plus envie de sortir parce que ça ne servait plus à rien, qu'il restait coincé dans le ventre, dans la gorge. Et donc, déjà, la première manifestation de l'émotion, c'est le bégaiement. Et c'est extrêmement handicapant, parce que quand tu es en colère et que tu veux dire un connard, tais-toi, et que tu dis te, ça ne va pas du tout. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'étais petit, j'ai appris, malheureusement, encore une fois, je m'en excuse par avance, Mais j'ai appris à me défendre avec les poings, parce que quand t'es petit, que t'es bec dans une classe ou dans une cour et que les gens se moquent de toi, le seul moyen pour qu'ils arrêtent de sourire, c'est ça. C'est quand ils sont par terre, après, ils te respectent, c'est monstrueux. Je dis pas que c'est un exemple à suivre, mais moi, je m'en suis tiré comme ça. Et les émotions, elles me débordent souvent. C'est-à-dire que j'ai du mal à les contenir. Moi, quand je suis, c'est bizarre, hein, j'ai un certain âge, je vais avoir 70 ans dans quelques semaines. Quand je vois un petit couple de personnes très très âgées qui traversent une rue, je suis submergé. C'est-à-dire un petit couple qui traverse une rue et puis qui ont l'air de bison, ils ont 90 ans et ils sont serrés tous les deux, je pense aux vieux de Brel, et puis ils se tiennent tout fort et puis les voitures, ah bon ce connard ! Et tout d'un coup, j'ai envie de les protéger furieusement et je suis émerveillé par leur bouleversé par leur par leur amour, par le fait qu'ils soient là, je suis bouleversé par leur fragilité. Quand dans une rue, je vois un homme qui hurle sur son enfant ou même qui le frappe, j'interviens, je peux pas laisser faire ça. C'est-à-dire que je suis, je devrais peut-être faire en sorte que ma raison soit plus aux commandes que mon cœur. Parce que mon cœur est trop aux commandes et des fois ça, et ben je prends un chemin qui n'est pas le bon. Frapper c'est pas le bon chemin, etc. Mais après je me dis tiens peut-être que j'aurais pas dû réagir comme ça, mais je me laisse déborder, voilà. Donc je devrais être beaucoup moins dans le débordement de l'émotion. J'ai la même chose quand j'écris avec la musique, dont une musique qu'on va entendre tout à l'heure, un Requiem de Duruflé, et là je me laisse déborder par l'émotion quand j'écris et donc il y a trop de mots. Et quand je relis mon écriture, quand je relis ce que j'ai écrit, il n'y a pas de musique. Je vais le faire dans le silence parce que brusquement, tous les mots qui ont été débordés par l'émotion, tous les mots qui ont été créés par l'émotion, je les traque et je les retrouve et je les enlève pour aller à l'os des mots, pour aller à l'os des phrases, pour aller à l'os des sentiments. Et donc, l'émotion me fait écrire et le silence me fait réécrire, relire et aller à l'os de ce que... Donc, je devrais faire plus silence dans ma vie pour refaire toutes ces actions différemment avec plus la raison que le cœur. Et en même temps, le cœur, enfin, le fait que je déborde de cœur, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de hurler dans un repas juste parce que quelqu'un a dit une connerie et de claquer la porte parce que ce sont des amis quand même. Et après, je me dis, mais pourquoi t'es parti ? C'est complètement con. Sauf que voilà, à un moment donné, j'ai été débordé. Je voulais plus être dans ce repas avec des gens que je pensais connaître et puis quelqu'un qui était là que je ne connaissais pas et qui commence à dire du mal de quelqu'un ou qui commence à dire que oui, les immigrés ou les réfugiés ou je sais pas quoi et tout. Et j'ai pas envie. Ça me salit. Il y a des choses que j'entends qui me salissent, qui m'empêchent de respirer, qui m'empêchent de vivre. Et c'est pour ça que je claque les portes. J'aurais moins claqué les portes, plus les laisser entrouvertes et plus argumenter. Mais des fois, je suis à bout d'arguments. Je trouve que les Blancs, ils sont plus intelligents que les Noirs. J'ai pas envie de recommencer à zéro, sincèrement. Donc le mec, voilà, il va... Soit il part, soit je m'en vais.
Vous voyez vraiment ça comme un handicap ?
Oui.
Moi, je perçois justement comme une forme d'entièreté de la personne.
Non, pas parce que quand tu es trop submergé d'émotions, les gens ils te marchent sur la gueule. C'est-à-dire que d'abord ils voient ton point faible, ils savent, ils comprennent, ils connaissent et ils s'en servent. Donc le problème c'est tu débordes d'émotions puis après il faut que tu te battes contre toi-même. Donc le combat contre mes émotions est un combat au quotidien tout le temps. C'est-à-dire si tu laisses tes émotions paraître. Je vais employer des mots de guerre et d'armée, mais ne dis pas à ton ennemi qui tu es. Dès que ton ennemi sait qui tu es, dès qu'il t'a cerné, il te rentre dedans et il gagne. Donc l'idée, moi je préférerais dans mon existence, mon rêve, quand j'étais enfant, au lieu d'être le petit énervé tout rouge qui gueule, j'aurais préféré être le môme dans un coin tellement ténébreux, tellement silencieux. Oh, mais qu'est-ce qu'il pense, ce beau garçon qui est là-bas ? Je ne suis pas beau, mais en tout cas, c'est dans mon idée, plutôt ça que le petit roquet qui est au milieu de la scène, qui dit « Allez, venez, 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 venez !» C'est grotesque. Donc voilà, j'aimerais un jour, au moins, avant de mourir, un jour être le garçon dont on dit « Mais c'est bizarre, cette personne qui ne dit rien et qui a l'air de nous écouter avec attention. Waouh, qui est-il ? » Eh ben non, moi je ne suis pas ça, je suis un livre ouvert. Et le livre ouvert, quand tu as un livre ouvert, les gens arrachent les pages, quoi. Ça les amuse.
J'espère que vous continuerez à en écrire d'autres, en tout cas des livres ouverts.
Moi aussi.
Nous, on en a besoin en tant que lecteur et justement, je vous invite à écouter ce dernier morceau, ce Requiem, qui, comme vous le disiez auparavant, est une forme de géographie musicale dans laquelle vous aimez vous baigner. Vous voulez peut-être justement expliquer pourquoi ce second choix musical.
C'est-à-dire que moi, il se trouve que je suis tombé sur une qui est très connue, évidemment. C'est une grande chanteuse, c'est Cecilia Bartoli, qui chante de la musique baroque. Et un jour, je tombe sur un morceau d'elle, Opéra Proibida, et ce morceau de baroque me touche infiniment, et ensuite je commence à la suivre, je commence à écouter ce qu'elle sort, etc. Et j'ai fait une compilation, qui est ma compilation, de tout ce qui me plaît le plus, en fait, d'elle. Et ce Requiem de Maurice Duruflé, donc, qui était un Français, et qui a eu un grave accident à un moment donné, qui a cessé de composer et qu'elle chante magnifiquement bien. Ce Requiem et donc tous ces morceaux d'elle, toutes ces partitions, en fait, composent ma playlist d'écriture. C'est-à-dire que je ne peux écrire qu'avec cette musique-là. C'est-à-dire que si j'ai oublié cette musique, si je ne l'ai pas sur mon ordinateur, si je ne l'ai pas sur mon téléphone, je ne peux pas écrire. Aucune note ne sort, donc aucune phrase ne sort. Et j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas besoin de l'écouter, je n'ai pas besoin de l'entendre. Mais quand j'entends cette musique qui sonne, qui résonne en moi et qui résonne dans cette pièce, qui résonne dans mes oreilles, c'est comme si on me disait « Vas-y bonhomme, tu peux écrire. Vas-y bonhomme, tu es tranquille. » Tu es en sécurité, tu es dans une pièce fermée, personne ne va t'emmerder, personne ne va ouvrir la porte, personne ne va dire des... Non, tu es... Vas-y, maintenant, c'est à toi. Et tu es seul. Et je suis plein de ces notes et j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que... Et j'ai eu besoin de ça pour un roman qui s'appelait Le Quatrième Mur. Et j'ai réessayé pour le roman d'après. Et ça marchait aussi. Et maintenant, depuis, je ne peux plus faire autrement. Et il m'arrive même, et ça c'est très particulier, de faire des articles pour Le Canard Enchaîné. Je suis au Canard Enchaîné. Où tout d'un coup, j'ai besoin de la musique pour me mettre à écrire. Et donc, c'est pareil. C'est comme les émotions. C'est pas bien. C'est-à-dire que je devrais... Moi, j'entends les écrivains dire « Moi, je peux écrire sur un bout de papier, dans le métro, partout, dans le bruit. » Mais comment ils font ? Alors, soit ce qu'ils écrivent, c'est pas bien, je sais pas, mais c'est juste pas possible. C'est-à-dire, il me faut quelque chose, il me faut un lieu, il me faut un silence, il me faut la nuit. Je n'écris pour le journalisme que le jour, pour Le Canard Enchaîné, je n'écris que le jour. Il n'y a que si j'ai un papier en retard, je suis extrêmement embarrassé quand la nuit tombe parce que je peux pas écrire pour le journal. En revanche, la fiction, c'est la nuit. Parce que je trouve que la nuit, les mots ont une musique particulière. Les mots sont différents. Il y a les mots de jour et les mots de nuit. Et chaque fois que j'écris pour la fiction, l'été, je suis malheureux parce que la nuit tombe beaucoup, beaucoup plus tard. Mais il faut une nuit physique, une nuit réelle. C'est-à-dire qu'il faut que quand je me mets à la fenêtre, d'abord, il faut que mes filles dorment, il faut que ma femme soit couchée, il faut que la maison soit fermée, il faut que la rue soit calme, il faut qu'il y ait les petites maisons, les petites lumières qui s'éteignent les unes après les autres, comme j'étais petit et qu'on regardait Bonne Nuit, les petits, c'était fasciné par ces immeubles en décor avec les petites lumières qui palpitaient à l'intérieur. Et moi, j'ai besoin que ces lumières s'éteignent les unes après les autres. J'ai besoin de la musique et après seulement, je peux écrire. Donc, ce que vous allez entendre, c'est Maurice Duruflé, c'est cette musique qui me porte, que je sois au Liban, que je sois avec mon père au procès Barbie, que je sois en Irlande, que j'ai un cancer, en tout cas, cette musique me porte toujours. Et c'est pas qu'elle guide mes mots, c'est qu'elle les inspire. Et après, je relis sans rien pour débarrasser les mots de toute cette émotion dont il faut parfois que je me débarrasse. Ben voilà.
Merci beaucoup, Sorge, pour votre entièreté et d'avoir répondu justement à mes questions au micro de l'autre radio à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de l'association Lecture en Tête.
Merci à vous de votre invitation et puis longue vie à l'autre radio.